Alors, on va tout de suite à notre prochaine invitée, c'est Anne Casabonne, qui est maintenant candidate politicienne. C'est une comédienne bien connue, elle a notamment joué dans les séries québécoises La Galère, Unité 9 et dans Complexe G. Anne Casabonne est candidate du Parti conservateur du Québec dans Marie-Victorin. Bonjour Anne.
Bonjour Madame Sankey. Bonjour tout le monde en premier lieu. À tous vos auditeurs.
Bon, alors Anne, comment ça a été cette façon de se présenter en politique? Est-ce qu'on est venu vous chercher ou c'est vous qui êtes allé cogner à la porte?
Bien, en fait, quand Éric Duhaime m'a téléphoné pour la première fois, alors qu'il voyait que j'étais membre de son parti, moi, j'ai signifié à Éric que je voulais me présenter aux élections générales. Et quand il y a eu une ouverture dans Marie-Victorin, puisqu'il savait que j'avais fait une partie de ma scolarité dans le comté et que je connaissais bien la région, il m'a invité à devenir candidate pour le Parti conservateur dans Marie-Victorin. Et c'est comme ça que je me suis dit, ben, pourquoi pas se lever les manches, se mettre les mains à la pâte et servir les citoyens de Marie-Victorin d'emblée.
Alors, ça a été extrêmement difficile pour vous, pour votre sortie. À un moment donné, vous avez fait une sortie au niveau... Vous sentiez un peu muselé. Vous sentiez comme, finalement, il y avait des gens qui dirigeaient pour vous. Et qu'est-ce que ça a eu comme prix au niveau de la sortie, quand vous êtes sorti au niveau des vaccins, au niveau de votre carrière? Et est-ce que vous avez trouvé ça plus difficile de prendre la parole puis se dire, bon, je suis fière, j'ai parlé, mais par contre, après, il y a eu des pertes de contrat. Racontez-moi un petit peu comment vous êtes sentie.
En fait, moi, j'ai écrit cette... j'appelle ça une satire cynique, hein, parce que je pense que les gens ont mal interprété ce que je voulais écrire là-dedans. Je l'ai faite... Premièrement, c'était sur mon Facebook personnel. Je pensais pas que ça allait prendre une ampleur comme celle-là. Il aurait fallu que je le mette, non pas public, mais plus vers mes amis, là. Mais je l'avais écrit dans la suite des événements qui se déroulaient. C'est-à-dire que M. Dubé, M. Legault venaient de dire qu'ils voulaient se départir de personnel soignant qui n'était pas vacciné. Moi, j'ai des amis qui attendaient déjà, qui subissaient du délestage. Alors, je n'en revenais pas de cette décision-là. Et j'avais marqué comment peut-on prétendre être en état d'urgence alors qu'on se départit du personnel soignant qui sont essentiels au maintien d'un système qu'on prétend vouloir sauver depuis 18 mois. Ça faisait 18 mois à l'époque. Et après, moi, je pensais qu'il allait avoir des critiques acerbes par rapport à cette décision-là qui allait être prise éventuellement de la part des médias. Et non, tout le monde adhérait en ce sens-là. Moi, j'étais encore d'autant plus sur le derrière. Et on a eu, par la suite, M. Legault, M. Dubé, qui était pleinement vacciné, qui venait nous dire qu'il fallait qu'on ait peur des non-vaccinés si on était vacciné, il fallait s'en éloigner, il fallait pas vouloir se faire soigner. Je trouvais ça d'un ridicule éhonté. Alors donc, c'est ça, c'est leur phrase que j'ai mis en exergue et mon personnage qui, comme je l'ai dit, était nettement influencé par un monologue que j'avais fait de Pierre Falardeau dans un film, décrivait la situation. Parce que si on lit la chose, c'est mon personnage, sans vouloir dévoiler mon statut, là, c'est un personnage qui est vacciné, qui se sent floué et qui est en train de décrier le fait qu'on utilise le statut vaccinal et le vaccin comme d'un outil politique. Parce que moi, j'ai jamais vu ça. Dans tous les vaccins que j'ai eu dans ma vie, j'ai jamais appelé quelqu'un pour lui demander est-ce que vous avez eu la variole? Est-ce que vous avez eu le vaccin de la variole? Et si tu l'as pas eu, tu viens pas chez moi. J'ai jamais vu ça de ma vie. Alors, pour ça que moi, de façon politique, j'ai choisi aussi de ne plus répondre à cette question-là. Donc, c'est ça qui est arrivé en gros, là.
Alors, depuis le début que vous avez annoncé, on voit je m'excuse, mesdames, messieurs, mais effectivement, le Boys Club des animateurs sont épouvantables avec vous. Comment vous ressentez ça? Moi, j'ai écouté quelques entrevues. On dirait qu'ils se sont donné le mot.
Ben, ça, on s'y attendait pas mal, hein. Je pense que je m'étais préparée psychologiquement à ce vent de mauvaise haleine, si je peux dire. Mais en fait, je pense que je suis assez forte psychologiquement parce que je m'y attendais, je suis prête. Et quand on a que des insultes ou quoi que ce soit comme argument, pour moi, ça passe pas la rampe. Alors donc, je m'en fais pas plus qu'il faut. C'est plus mes amis proches et ma famille qui s'en font plus que moi. Je vais vous dire franchement, là. Et de toute façon, ça fait partie de la joute politique aussi, d'entrer dans ce... Si on n'a pas la force d'affronter ça, je pense qu'on peut pas avancer. Tu sais. Puis moi, je veux représenter les gens. Alors donc, faut que je sois psychologiquement aussi apte à faire ça. Sinon, je vais m'écraser.
Alors justement, dans Marie-Victorin, qu'est-ce que vous voulez changer? Parce que bon, ça a toujours été aux mains du Parti québécois. Vous voudriez améliorer quoi dans Marie-Victorin, dans ce comté-là?
Ben là, en ce moment, j'ai commencé à rencontrer justement mes concitoyens et je suis en train de savoir vraiment tous les enjeux, de mieux connaître les enjeux, de mieux connaître mes concitoyens, d'essayer de comprendre aussi les défis économiques, les défis sociaux du comté. Je vais rencontrer aussi les élus municipaux pour bien m'imprégner de ce qui se passe réellement dans le comté. Alors donc, je suis à l'étape de rencontrer les gens vraiment en ce moment. Alors donc, avant de donner quelque engagement que ce soit, je veux bien m'imprégner de ce qui se passe réellement, là.
Est-ce que vous êtes confortable avec la position de votre chef au niveau de la culture, Anne?
Absolument. Je trouve que vraiment, il faut bien entendre, parce que moi, je trouve vraiment que les subventions sont données à un propos qu'on veut entendre. Nous, on ne veut pas carrément enlever toute subvention ou quoi que ce soit. C'est juste que on veut que ce soit plus juste, que ce soit moins bureaucratique, puis donner plus de chance à la parole de tous et non pas seulement aux artistes qui se soumettent à la voix ou au dictat d'un gouvernement en place. Je faisais référence dans ma conférence de presse à Falardeau, qui justement était obligé de faire des films un peu plus tous ces Elvis Gratton, il l'a fait de façon à pouvoir lui exprimer sa parole pour d'autres films plus sérieux qu'il mettait de l'avant. Alors donc, c'est en ce sens-là. Puis nous, sachez que, vous savez que moi, je me suis fait traiter de personne non essentielle. Hein. Alors donc, le milieu artistique, le milieu événementiel ont été très durement touchés par les mesures quelque peu arbitraires de M. Legault. On est le seul parti qui invite les artistes à aller frapper à la porte de Nathalie Roy, justement pour lui demander des comptes au niveau de toutes les études scientifiques. Parce que Arruda l'a très bien dit, hein, que c'est de façon politique qu'on a fermé les musées, les restaurants, blablabli, blablabla. Il l'a dit en commission parlementaire. Alors, nous, on trouve que les artistes ne sont pas seulement non essentiels, ils sont ultra essentiels pour aller nourrir l'âme des gens. Les gens ont besoin de ça. Alors donc, c'est pas vrai que, contrairement à ce que Sophie Durocher essayait de prétendre, qu'on se fout du milieu artistique. Au contraire, on veut libérer leurs paroles, on veut leur redonner leur place d'essentialité au sein de la communauté québécoise. Dieu sait qu'ils sont importants. Et moi, j'ai un penchant, j'ai un petit penchant en faveur de ceux-ci, évidemment.
Est-ce qu'il y a une place pour un Québec indépendant dans ce parti?
En ce moment, moi, j'ai comme oublié tout ça parce que ce que le Parti québécois propose, les voir faire avec, tu sais, participer à la discrimination, à la stigmatisation de certains Québécois, ça m'a heurté profondément. C'est pas comme ça que je voyais un Québec supposément avec les Québécois libres. Là, je fais partie d'un parti qui est vraiment nationaliste, qui est vraiment patriotique, qui veut redonner le moyen aux Québécois d'être. Tu sais, ce que je dis souvent, c'est que la force, le rayonnement d'un peuple, ça se voit à l'autonomie puis à l'épanouissement des gens qui le composent. Et là, on empêche certaines personnes, justement, de gagner leur pain. On empêche certaines personnes de mettre à profit leur talent, de mettre à profit leurs compétences. Alors, pour moi, le Parti conservateur, lui, veut redonner tout ça aux Québécois et on est en train de perdre tout ça. Alors donc, l'essentiel pour moi maintenant, c'est de redonner tous les droits aux Québécois.
Qu'est-ce que les gens vous disent? Est-ce que vous avez commencé votre porte-à-porte?
Oui, j'ai commencé à rencontrer mes citoyens. Ça dépend beaucoup, hein. Il y a beaucoup de gens qui expriment le fait qu'ils ont très peur du virus. Et il y en a d'autres qui, au contraire, eux, ont plus peur des amendes et ils croient pas que les mesures sanitaires soient vraiment efficaces. Ils demandent même, un peu comme le Parti conservateur le souhaite, des rapports scientifiques qui affirment que les gens ont pas eu la COVID parce qu'ils ont mangé assis plutôt que debout. C'est des rapports qui confirment que les gens ont pas eu la COVID parce qu'ils ont cessé de fréquenter des non-vaccinés ou bien, tu sais, toutes sortes de preuves scientifiques qu'on n'a pas et sur le... Tu sais, pourquoi est-ce qu'on a eu moins de cas à cause du couvre-feu? Est-ce qu'on a eu... comment ça se fait? Tu sais, parce que ça devient quasiment absurde. En Europe, c'est 1 mètre de distanciation. Ici, c'est 2 mètres. Il y en a qui faisaient des blagues en disant « Est-ce que le virus au Québec est plus gros? » Tu sais, c'est... Ils veulent vraiment... Parce que le fardeau de la preuve revient effectivement à M. Legault de s'il veut nous faire tomber nos droits fondamentaux, il faut à tout le moins, pour éviter des dérives démocratiques, qu'on ait les preuves à l'appui. Alors donc, il y avait beaucoup de personnes qui réclamaient ça. Il y en a qui sont beaucoup aussi dans le... un peu dans le... dans le même dossier que Éric Duhaime se trouve, c'est-à-dire que ils comprennent pas pourquoi leurs médecins d'un côté leur disent qu'il faut pas qu'ils prennent la troisième dose, alors que M. Dubé, qui est un comptable, lui dit que même si on a fait Omicron, il faut absolument prendre la troisième dose tout de suite après avoir eu les symptômes. Il y a vraiment des... ils semblent biaisés aussi, floués même dans le fait qu'on leur a promis toutes sortes de choses et qu'à la fin, la liberté qu'on leur a promis, ils ne la retrouvent même pas. Alors donc, fait que c'est tout. Il y en a aussi qui voient l'inflation. Il y a des, c'est pas possible de tous les témoignages que j'ai eus. J'ai eu des jeunes qui ont envie de décrocher, qui ont envie de déménager dans un autre pays. Il y a des détresses psychologiques. J'ai rencontré une dame qui était sur le bord du suicide. Elle repose tout son espoir repose dans le Parti conservateur. Tous ceux qui ont été aux prises avec la faillite alors que qui sont au bord de la faillite alors que ils ont très très bien géré leur commerce, ils voient pas comment ça se fait qu'ils sont encore c'est pour la quatrième fois hein, qu'ils se font couper l'herbe sous le pied. Il y en a qui remarquent énormément la division des gens qui est en train de se créer, l'espèce de crise sociale. Il y en a qui s'appauvrissent comme jamais. Alors donc, j'ai toutes sortes de témoignages. Et parmi tous ceux-là, il y en a qui ont vraiment peur du virus, puis alors que tout le monde le dit, là, même M. Weiss le dit à la télévision ou les ondes radio, je ne me souviens plus, mais que Omicron était beaucoup moins létal que les autres variants qu'on a eus. Malgré tout cela, on se pose des questions sur le pourquoi les mesures existent encore.
Il y a Martine Ouellet qui se présente vraiment au niveau du climat du Québec. Qu'est-ce que votre parti a apporté au niveau de l'environnement?
Nous, en tout cas, le Parti conservateur, hein, c'est dans ce mot-là, il y a « conserver ». Et on nous a souvent maltraités justement parce qu'on disait qu'on n'avait pas un rapport écologique extraordinaire, mais au contraire, nous, conserver la beauté de la nature, conserver notre enracinement local, protéger notre entrepreneuriat ici, fait partie justement de l'écologie dans son ensemble. Tu sais, eux, ils vont parler souvent du crémage écologique. Nous, on va parler de la fabrication du gâteau au complet, comme par exemple pour les voitures électriques. Nous, on va être fiers d'extraire les minerais qui vont construire ces voitures électriques-là pour faire les batteries, mais c'est 10 fois plus polluant qu'une voiture à moteur à fabriquer. Tu sais, faut être conscient de tout le gâteau. Nous, on va en ce sens-là, c'est-à-dire que puis on a des plans de restauration, on va faire attention, on va exiger les normes environnementales les plus strictes qui existent. Alors donc, je pense qu'au niveau environnemental, nous, non seulement on va parler du crémage, mais on va parler de l'ensemble, trop souvent qu'on oublie de parler.
Merci beaucoup Anne Cazabonne et bonne chance pour la campagne électorale et ce nouveau chapeau de politicienne parce que c'est jamais facile en tant qu'artiste de se présenter en politique et bravo pour avoir fait ce geste-là.
Ben, merci Madame Stanké, je salue tout le monde aussi qui écoute. Je vous remercie.
Au revoir.